maintenant.
Ouvert la nuit.
Du lundi au vendredi.
À partir de 21h. France Inter. La différence.
Vous avez rendez-vous maintenant avec Daniel Mermet pour Là-bas si j'y suis.
Oui, j'irai combattre pour des guerres illégales. Oui, j'irai défendre les industriels pour qu'ils vendent des rafales de chez Dassault, pour qu'ils vendent des missiles de chez Dassault, pour qu'ils puissent conquérir des territoires où il y a du pétrole, pour qu'ils puissent déloger des dictateurs qui sont pourtant laïcs, pour les remplacer par des gens beaucoup moins laïcs. Oui, j'irai tirer sur des manifestants qui réclament la vraie démocratie et non la dictature financière. Voilà. C'est mon allégeance au drapeau. C'est un message pour Monsieur Copé. Il y en a ras-le-bol de cette clique. On en a ras-le-bonbon, ok ? Bruno Paris.
Merci pour ces deux émissions sur la fiscalité. J'appelais juste pour apporter un complément. Sous Jacques Chirac, entre 2002 et 2007, je me rappelle que Jean-François Copé avait été ministre du budget et avait supprimé le nombre de 7 à 5, le nombre de tranches sur l'imposition des revenus. Voilà, ça n'a pas été dit pendant ces deux reportages, mais ça mérite aussi d'être soulevé. Donc comme quoi, Jean-François Copé est un bon socialiste révolutionnaire. Allez, encore merci pour ces éditions et vivons demain et vive la Palestine libre et autodéterminée. Ciao.
Nul homme n'est une île complète en soi-même. Tout homme est un morceau de continent, une part du tout. Si une parcelle de terrain est emportée par la mer, l'Europe en est lésée. Tout de même que s'il s'agissait d'un promontoire, tout de même que s'il s'agissait du manoir de tes amis ou du tien propre. La mort de tout homme me diminue parce que je suis solidaire du genre humain. Ainsi donc, n'envoie jamais demander pour qui sonne le glas, il sonne pour toi. Hier, on a assassiné Troy Davis dans une démocratie. Je voudrais pas qu'il soit tué une deuxième fois et pour lui, je crois qu'il faut continuer à lutter. La mort de cet homme est profondément injuste. Je vous embrasse.
J'ai entendu ce matin aux infos que la Sécu était au fond du gouffre, que son trou ne cessait de se creuser et que diverses mesures allaient être prises pour en ramener son déficit à 14 milliards d'euros. Je suis le papa d'une petite fille à laquelle on a diagnostiqué une leucémie en 2009. Elle a donc dans un premier temps subi une très longue et lourde hospitalisation et dans un second temps suivi un traitement médicamenteux important à base de chimio, d'antibiotiques, d'antiviraux et autres à domicile. Elle est maintenant en rémission et n'a plus tous ses médicaments à prendre. J'ai donc demandé au médecin de l'hôpital dans lequel elle était suivie ce que je devais faire des boîtes de médoc neuves, non entamées et toujours en cours de validité qu'il me restait. Ils n'ont pas voulu les reprendre et m'ont dit « Eh bien, monsieur, mettez-les à la poubelle ». Je suis allé ensuite les proposer en pharmacie où j'ai obtenu la même réponse. Je me suis ensuite adressé à Pharmaciens Sans Frontières, même réponse. Il y en a pour plus de 2500 euros de médoc. Alors qu'après, on ne vienne pas me gonfler en m'expliquant que le trou de la sécu est dû en grande partie au gaspillage, vu que celui-ci est en l'occurrence organisé par ceux qui sont censés le combattre.
Merci pour tous ces messages qui me parviennent ici à Ramallah. À Ramallah, tout aujourd'hui peut se résumer à deux symboles. Une chaise bleue et un chiffre, 194. La chaise bleue, qui est dressée au milieu de la ville de Ramallah, c'est l'espoir d'avoir un siège aux Nations Unies. Et 194, c'est l'espoir de devenir le 194e état de cette planète. Est-ce que ça va marcher? On en doute pas mal, mais on tient quand même à ces symboles. Ce soir, vous le savez, discours très attendu d'Abou Mazen aux Nations Unies. On a été évidemment ici très déçus du discours d'Obama. Le mot de trahison est sur toutes les lèvres. On est très perplexe aussi du discours de Nicolas Sarkozy. Mais on se console comme on peut en se disant qu'on est quand même soutenu par 130 pays à travers le monde, dont la Chine, dont l'Inde, dont le Brésil, ce qui laisse peut-être quelques espoirs. Tout ça, naturellement, est symbolique. Toute cette histoire se joue à coup de symboles. Et le symbole, ici, maintenant, c'est le fric. Depuis quelques années, on a essayé de noyer la cause palestinienne sous une pluie de dollars. C'est ce qu'on pourrait se dire en regardant autour de nous les maisons en construction, les buildings clinquants, les vitrines, les centres de maquillage. Oui, c'est un centre de maquillage, de gymnastique, de boîtes clinquantes et de paillettes. Évidemment, c'est pas le cas de tous et de tout le monde ici en Cisjordanie. La plus grosse dotation par habitant de l'histoire de la coopération internationale, la Cisjordanie. Mais évidemment, c'est pas réparti de façon équitable. C'est peu de le dire. Et c'est avec ceux qui n'en profitent pas du tout que nous allons passer cette heure, c'est-à-dire les réfugiés, ceux qui continuent depuis des années et des années de croupir dans les camps depuis 1948, 1949, pour beaucoup d'entre eux. Comment voient-ils, eux, cette Cisjordanie, cette Palestine aujourd'hui et cet espoir, enfin, peut-être un jour, de marcher vers la paix? C'est notre sujet aujourd'hui. Auparavant, encore quelques messages parmi ceux que vous avez laissés dans la boîte vocale de la Bassi Jissi au 01 56 40 37 37.
Bonjour à tous et à chacun. Le Café Repère de Marly-le-Roi, 78 Yvelines, réouvre son coffre à idées ce samedi 24 septembre à partir de 17h avec Monsieur Gérard Le Puil, spécialiste des questions agricoles. Avec lui, nous discuterons de la sécurité alimentaire. Venez nombreux à partir de 17h au bar-restaurant Le Fontenelle, 30 rue de Fontenelle, juste derrière la gare SNCF de Marly-le-Roi. Merci à toute l'équipe, au revoir.
Je suis le paysan qui a eu la chance de pouvoir prendre la parole au plateau des Glières au mois de mai, où j'avais pu expliquer que Lactalis, le grand groupe Lactalis, président Lactel, Roquefort Société, m'emmenait au tribunal parce que j'avais osé en 2009 bloquer ses usines pour lui réclamer un prix qui me permette, un prix du lait qui me permette de vivre de mon métier. Voilà, simplement pour dire à tous ceux qui nous ont soutenus, à tous ceux qui nous ont écoutés, qu'on avait gagné puisque Lactalis ont été non seulement déboutés de leurs plaintes, mais condamnés à nous verser, c'est-à-dire à nous, la Confédération Paysanne et à moi-même, 1500 euros de frais de justice, plus bien sûr les frais d'avocat. Voilà, simplement pour dire que quand on se mobilise, quand on fait du collectif, on arrive à gagner, même quand on est tout petit, face à un groupe aussi mondialement énorme que Lactalis. C'est Philippe Marquet de Maringe Paysan. Salut!
Que tout le monde applaudisse et le soutien à Abou Mazen, le président palestinien. Yasser Arafat a dit que nous sommes venus avec le rameau d'olivier. Ne laissez pas le rameau tomber. Abou Mazen aujourd'hui, Abou Mazen dit encore qu'il ne faut pas faire tomber le rameau d'olivier aujourd'hui. J'irai à l'ONU pour demander le droit du peuple palestinien. Cela représente la position de tous les Palestiniens. Monsieur le Président Abou Mazen, Monsieur le Président Mahmoud Abbas, nous n'avons pas leur message. Nous pensons qu'aujourd'hui, vous remplissez les promesses que vous avez promis au peuple palestinien. Et aujourd'hui, en vous soutien dans votre démarche, c'est la démarche qui mettra fin à l'occupation.
Salut, c'est la Bassi Jissi, Daniel Mermet, qui ventile depuis Ramallah, Palestine, mais dans quel état? Suite.
Arriving from New York. الحكم ولا نبعد كيلوات المترات عن مكانه، لا نبعد كيلوات المترات عن مكانه، نقف لنستنكر شهيدنا الخالد القائد الرمز ياسر عرفات.
Là, on se rappelle de notre plus grand martyr, le martyr de tout le peuple palestinien, le plus grand martyr Yasser Arafat. On se rappelle aussi de Abou Ali Mustafa, de FLP. On se rappelle aussi de Ahmad Yassin, le leader du Hamas, assassiné par les Israéliens.
Cheikh Yassin.
On se rappelle aussi du martyr Omar el-Bassem.
Donc là, il est en train de citer tous les noms de la lutte indépendance des islamistes à l'extrême gauche.
Exactement, pour élargir le panel des, parce que les gens qui sont aussi aujourd'hui sur la place Al-Manara, au plein centre-ville de Ramallah, c'est des gens qui sont pas uniquement du Fatah, mais de tous les partis politiques. En tout cas, c'est la volonté de montrer que tout le peuple palestinien, avec tous ses partis politiques, soutient la décision et la démarche palestinienne d'aller à l'ONU. Parle des pressions exercées sur le président Mahmoud Abbas Abou Mazen et la dernière pression extrêmement ouverte et transparente, c'est le veto américain. Ils disent en fait, on va juste vous répéter ce que Abou Mazen dit toujours, qu'il n'y a pas un seul peuple encore qui vit sous occupation à part le peuple palestinien. Il est temps qu'on ait notre État. Durant cette manifestation, on ne va pas laisser la parole aux organisateurs de l'événement parce qu'en fait, on ne veut pas que votre mobilisation soit volée par quiconque. On va laisser juste la parole aux enfants des martyrs pour parler et demander un État palestinien.
Comment elle s'appelle la place ?
La place de l'horloge en fait, Douar Sa'a en arabe.
C'est une des places centrales
C'est une des places centrales qui était en 2006 et 2007 objet d'une destruction complète par les chars israéliens.
Qui est arrivé jusqu'ici, oui.
Qui sont arrivés jusqu'à ici et puis les chars israéliens, ils ont détruit toutes les voitures autour. Ils ont bloqué complètement toute la rue. Et il y avait une horloge ici au centre, très très connue, qui a été détruite.
Voilà. Aujourd'hui, mercredi, c'est la grande manif. Aujourd'hui, sur la place de l'horloge, toute la foule est assemblée. Il y a une sono très, très puissante. Mm-hmm. Pourquoi ? Parce qu'on veut soutenir la démarche de l'autorité palestinienne, de Mahmoud Abbas, auprès des Nations Unies. Il fera un discours ce vendredi pour demander la reconnaissance de l'État palestinien par les Nations Unies.
Par la communauté internationale.
Et on appelle ça... Là, on voit sur le mur, alors il y a une foule multicolore, comme on dit en bas, là, sur la place, avec des drapeaux, évidemment, des drapeaux palestiniens, des kéfiers, enfin, toute la foule qu'on peut imaginer. Et sur les maisons, tout autour, sur les buildings, sur les immeubles, il y a des grands panneaux, des grands drapeaux palestiniens. Il y a aussi énormément de médias sur les hauteurs, partout.
Tous les drapeaux des pays qui ont déjà reconnu la Palestine en tant que dans quelques pays européens, des pays arabes, des pays musulmans, des pays africains.
C'est ça. Et au total, on estime entre 120 et 130
Exactement.
États, ceux qui soutiennent l'initiative palestinienne. Et on a les deux leaders, évidemment, Arafat, Abou Mazen, et au milieu, le dôme.
Le dôme du rocher, le symbole de Jérusalem.
Voilà, Al-Aqsa. Et puis partout sur les toits des spectateurs, le public, et énormément de médias, notamment beaucoup de médias français qui sont là, on l'entend.
Voilà. Mais il y a Fox News aussi.
Mais il y a Fox News, évidemment. Le monde entier a les yeux fixés
sur ce qui se passe dans cette ville de Ramallah qui est en totale transformation, qui est méconnaissable. En quelques années, cette ville est devenue absolument méconnaissable parce que c'est devenu une vitrine clinquante et on croit ici à la paix par l'économie.
C'est assez symbolique de faire la manifestation ici parce que d'habitude, en fait, toutes les manifestations en place à quelques centaines de mètres plus loin sur la place des Lions, la place Manara. Et aujourd'hui, c'est un changement parce que c'est aussi un changement lié à la construction d'un État palestinien. Je disais que cette place a été détruite il y a quelques années par les chars israéliennes. Il n'y avait rien qui a été construit ici. Il y avait un grand horloge aussi mis à terre. Et aujourd'hui, la place est renouvelée entièrement par des dons de la plus grosse compagnie de télécommunications palestinienne, de téléphonie mobile.
Cette place vous est offerte par Bouygues. Ou l'équivalent.
Jawal.
Et pourquoi pas les Lions alors? Parce que c'est bien plus emblématique les Lions.
Traditionnellement, toutes les manifestations des différents partis politiques avaient toujours lieu sur Place Al-Manara, la place des Lions. Et la place du Lion a une symbolique. Il y a quatre lions qui sont autour de cette place, qui symbolisent les plus grandes familles aristocratiques riches de Ramallah, qui ont fondé la ville de Ramallah. Donc aujourd'hui, il y a, je pense, une volonté de se séparer de cet héritage à la fois culturel, généalogique avec la ville de Ramallah, mais aussi de faire quelque chose qui rassemble, qui est de commun. Ce n'est plus la place de Ramallah, mais plutôt une place dans Ramallah qui rassemble tous les Palestiniens autour d'une place en construction, en rénovation. Donc c'est aussi un consensus palestinien autour de la construction d'un État palestinien.
Alors, consensus, on l'entend, on entend les applaudissements. Est-ce que selon toi, tout le monde est là? Est-ce que tous les Palestiniens sont là? On a rencontré les Palestiniens, les réfugiés, dans leur camp de réfugiés, à Al-Mari, à côté. Je ne sais pas s'ils sont là aujourd'hui, ceux-là. C'est un peu les oubliés de l'histoire.
Malheureusement, des oubliés de l'histoire, vous avez tout à fait raison et vous avez raison de le souligner, de le rappeler, parce que dans cette démarche, il y a des oubliés. Pas uniquement des oubliés à cause de la situation économique, mais aussi des oubliés de toute la démarche de l'autorité palestinienne, de l'OLP, d'aller vers nos connaissances internationales. Aujourd'hui, le Hamas s'oppose à cette démarche-là et donc le Hamas n'est pas présent par ses militants, par ses martyrs et ses prisonniers. Et personne n'est là du Hamas. Et c'est une tranche assez importante de la société palestinienne.
Alors, il y a le Hamas qui n'est pas là, qui n'approuve pas la démarche, mais il y a aussi les réfugiés qui sont oubliés, qui continuent de croupir dans leur...
Donc beaucoup pensent que cette démarche peut aussi mettre en jeu le droit du retour des réfugiés vers leur village historique.
Ouais, et eux ne sont pas là aujourd'hui.
Ils ne sont pas là. Enfin, en tout cas, je n'en ai pas vu beaucoup.
Donc, il n'y a qu'une partie de la société palestinienne qui est là aujourd'hui et qui est en train d'écouter les discours et qui soutient cette démarche.
Et aujourd'hui, à Gaza, qui est tenue par le Hamas, toute manifestation est interdite.
Oui, alors ça marque encore davantage la rupture entre la Cisjordanie et Gaza.
Bien sûr, il y a une rupture entre cela, mais ça montre aussi que malgré l'accord de réconciliation signé entre le Hamas et le Fatah, il y reste beaucoup de choses à faire. Ce projet d'État palestinien doit être un projet fédérateur des Palestiniens. Malheureusement, aujourd'hui, il fédère beaucoup de monde, beaucoup de segments de la société palestinienne, mais encore, les Palestiniens n'ont pas tranché à 100%.
Exactement le 2 novembre 1917, نهار هذاك عبد الكشمار طلع ربه في الوقت هذاك الشيطان عرف كيفاه تربى اليهود كانوا فارس وليزونجلي كانوا فارس تفهموا في بعضهم وداروا وعد تاع بالفارس ويقولوا فيه حاجة حاجة واحدة هي تهمهم اليهود متفرقين وفلسطين رايحة تهمهم سنياتور الصغيرة جاب الحرب كبيرة ستيل واحد كتب تاريخ كله كتيلة 15 مي 48 عم بالك وش يصير اليهود داروا اعلان قيام دولة اسرائيل اللي كانوا كتبت معاهم ما بالسلاح وليمسيل ودم حتى اليوم ودم العرب قاعد يسيل سون 82 واش صار صبرا واش هتيلا لماساكر تاع الاستوار كريم دو غير وين هما لي دروا دلوم الكلمة تاع السلم ما تكسستيش عن شعرون شعلوا الحرب حبوا غير العراك داروا امبارغو بومباردا والعراق فقروا افغانستان جدار فيها روسيا اليهود فرحوا كي المسلمين ماتوا في البوسنة والهرسب اكسترميناوهم في الكوسوفو الناس كل شهدوا في التلي بعينيهم شافوا اراضي تحرقوا ديار كل تهدموا عباد كل تقتلوا دراري صغار كل يتموا بعد في اللوني يحكي وعالسلم لي شوي بيشوفوا فيه قشمار مش حلم ما تكسروش راسكم القرآن وقالها اليهود ما ترضاش حتى نتبعوا دينها
À la Marie, comme dans tous les camps de réfugiés en Cisjordanie, les messages d'espoir s'écrivent sur les murs.
Radio-Canada.
Dans ce camp, juste à côté de Ramallah, 3500 personnes s'entassent sur 1 km².
20 octobre 2009.
La plupart des habitants du camp n'ont pas connu leur village d'origine. C'est leurs grands-parents, ceux qui ont vécu la fuite d'Israël, qui leur racontent leur histoire et entretiennent le souvenir de la terre perdue.
J'ai toujours l'espoir de rentrer, et même si j'avais un château ici et une petite maison là-bas, je préférerais retourner à El Manra.
Il y a aujourd'hui plus de 4 600 000 réfugiés palestiniens. En 2000, le gouvernement israélien a refusé leur retour systématique, craignant une crise économique et la perte du caractère juif d'Israël.
On sait, on a garé la voiture sur le terrain de foot. C'est ça que les gamins braillent. On arrive dans le camp d'Al-Mari.
Vous êtes les bienvenus à Al-Mari.
Donc c'est un camp de réfugiés des réfugiés palestiniens qui ont été déportés de Lod, Ramle et Yaffa.
En 48, c'est-à-dire qu'ici on est dans un camp qui existe depuis 1948, à la suite de la Nakba. C'est ça. Et là, vous êtes combien dans ce camp?
Euh, 8 500 personnes.
Ici, c'est un centre pour la jeunesse. Et là, il y a les gamins qui sont en train de jouer au foot. Qu'est-ce que ça représente, ça? C'est une sorte de mausolée devant nous.
هذا ضريح الشهداء اللي استشهدوا بال من مخيم الأمعري في الانتفاضة الأولى.
En fait, c'est les mausolées des martyrs qui sont morts dans les camps de Al-Amari durant la première intifada.
وهذا الأسماء الشهداء اللي استشهدوا في مخيم الأمعري بالانتفاضة الثانية.
Et donc le deuxième mausolée c'est le mausolée des martyrs qui sont morts des résistants qui sont morts durant la deuxième intifada.
C'est-à-dire 2001-2006.
Exactement.
وهذا الضريح الرئيس ياسر عرفات.
Et c'est le mémorial de Abu Ammar Yasser Arafat.
Voilà, nous voilà avec ceux qui sont cachés derrière le paravent. Derrière le paravent clinquant de Ramallah, c'est-à-dire les réfugiés de ce camp, ce vieux camp d'Al-Amari qui est là depuis 1948-1949. Un taxi nous montre son bras. Il nous dit, vous voyez ce bras? Eh bien ce bras, je voudrais le couper. Et pourquoi je voudrais le couper? Parce qu'avec ce bras, j'ai lancé des pierres lors de la première intifada. C'était notre résistance, c'était notre espoir. Eh bien aujourd'hui, notre espoir, notre résistance est volée par ceux qui nous dirigent. Il est très amer, il fait très attention. Il ne veut pas répéter ça dans notre micro. Il remonte la vitre de son taxi. Et où nous emmène ce taxi? Eh bien, dans un salon de coiffure. On veut voir absolument l'un de ces très luxueux salons de coiffure qui se sont ouverts récemment et où les belles dames viennent se faire soigner, coiffer, colorier. Pourquoi donc? Eh bien, parce qu'elle travaille dans l'ONG Business. NGO Business. Oui, oui, oui. Et pourquoi? Eh bien, parce qu'il faut être très élégant, très séduisant pour le fundraising, pour obtenir des fonds. Tout dans cette ville de Ramallah tourne autour du business de l'aide. Spéculation, programmes, détournements divers et variés. C'est toute une activité, tout un trafic, si on veut, qui fonctionne là-dessus et qui, évidemment, sont des sommes considérables, mais qui restent dans cette ville, qui restent juste dans cette vitrine et qui ne sont pas répartis à travers le pays. Tout est sous contrôle israélien ici, l'occupation est totale et les prisonniers eux-mêmes gèrent leur camp de cette façon en montrant une vitrine extrêmement brillante, extrêmement séduisante, extrêmement glamour. Mais derrière cette vitrine, il y a ceux de Al-Amari.
أنا اسمي أحمد طمالي من خلال الأمعري أنا عندي ست أولاد ثلاث أولاد وثلاث بنات
Moi je suis Ahmad du coin de Al-Amari j'ai trois filles et trois garçons
Et toi
اسمي رمزي كفاية أب لأربع أطفال
Et moi je m'appelle رمزي كفاية je suis père de quatre enfants
Quatre enfants Et toi
Je suis célibataire
Il cherche
Oh, tu m'as trouvé ici, non? J'ai vu des jolies filles.
Il y a beaucoup, mais le chômage, le... ça c'est le problème.
Oui, pour se marier, il faut avoir une belle situation. Il faut avoir un peu d'argent. Bah oui, sinon on ne peut pas élever les enfants.
Est-ce que tu peux expliquer la formation de ce camp en 48? Rappelez un petit peu, en quelques mots, ce qui s'est passé.
احنا مخيم الامعري معظم اهالينا جايين من هي من اللد من الرمله من يافا من حيفا اجوا كلهم اجوا على مخيم الامعري هون
le camp de réfugiés de l'Amari la population vient essentiellement nos parents sont venus essentiellement de لد رمله جافا وحيفا
طبعا عاشوا اهالينا في اوضاع صعبه جدا يعني كانت البيوت
en fait au début nos parents ils ont vécu des conditions extrêmement difficiles c'était des tentes
ثم كان البيوت زينكو
avant d'être de tout dit avec des maisons en métal, en tôle, et aujourd'hui c'est des maisons en ciment et en
pierre.
Les services sont fournis par l'UNRWA, qui est l'organisme des Nations Unies pour secourir les réfugiés palestiniens. Il gère deux écoles, une école pour les garçons et une autre pour les filles, plus une clinique, dispensaire.
Mais comme à Gaza, comme dans d'autres camps de réfugiés ici en Cisjordanie, tout le monde et vous vivez sous perfusion de l'UNRWA, des Nations Unies, depuis cette époque.
Non, c'est vrai.
Oui, bien sûr.
يعني مثلا اللي عايشين داخل المخيمات هم الناس الاكثر بحاجه لانه لو انا عندي مصاري وقادر اشتري دار برا المخيم انا بطلع اول شيء.
Bien évidemment en fait les gens qui habitent dans les camps de réfugiés c'est les plus nécessiteux, c'est les plus pauvres.
فيش فيها شمس، البيوت فيش فيها خصوصيه، يعني ممكن تسمع جارك شو عم بيحكي وشو عم بيصير
هيك. Même si j'avais plus d'argent à acheter en dehors du camp de réfugiés, je me serais déplacé en dehors de cela. Parce que en fait, les conditions de vie sont extrêmement difficiles, les gens vivent côte à côte, ils entendent leurs voisins, et ils entendent tout ce qui se raconte à côté.
Dans le Mokhayem, on a un Mokhayem Al-Amari, 70% de jeunes.
À peu près 70% de la population du camp d'Al-Amari, c'est des jeunes.
À moins de 25 ans. Et le chômage, le taux de chômage,
ben le batalé a déjà
c'est le batalé. من الشباب هذول في كثير منهم بتعلموا وبدرسوا مشان هيك نسبه البطاله عندنا بالموجوده تقريبا 30%.
Le taux de chômage dans ce camp de réfugiés s'est beaucoup amélioré. Aujourd'hui, il est à 30%, mais c'est parce qu'il y a beaucoup de jeunes qui étudient et qui sortent en dehors du camp.
عامر ابو طيور هي عامر
عامر كي ان جون
يدرس فرنسا وبدرس فرنسا بتعلم منيح بس للاسف حاليا عاطل عن عمل ومش عم بيشتغل
دونك عامر كي اتيدي لو فرونسي على لونيفرسيتي اي لي او شوماج اي تروف با ترافاي اي اوجوردي اي باس سون تون سون ترافاي
رمزي نفس الشيء شاب برضه كان يشتغل على سياره ومعلم وقفه عن الشغل لانه فيش عنده شغل حاليا برضه رمزي عاطل على العمل
Ramzi était un chauffeur de taxi, pareil, il était licencié de son activité de taxi, et puis aujourd'hui, il n'arrive pas à trouver un travail. Nassib, c'est la même chose, un troisième jeune, pareil, il est au chômage, il trouve pas de travail. Donc en fait, si on prend juste un échantillon comme ça, par hasard, on est quatre jeunes, et il y en a un seul, moi-même, qui travaille, et le reste ne travaille pas. C'est les scouts du camp. Donc en fait, les jeunes ici s'entraînent. C'est des scouts qui s'entraînent pour la démonstration, pour la manif de demain. Puisque en fait, ils vont manifester pour demander, réclamer un État palestinien à l'ONU.
Ah, voilà.
Ça aura lieu demain matin au centre-ville de Ramallah. Et on demande depuis ici à la France de reconnaître l'État palestinien à l'ONU.
Voilà, il faut que la France entende ces jeunes qui demandent le soutien de la France pour la reconnaissance de l'État palestinien qui va être demandé par les Palestiniens aux Nations Unies ce vendredi.
Et c'est ce qu'on souhaite surtout.
Ramallah, une ville en plein boom. Hôtels de luxe, centres de bien-être, appartements de standing, on construit à chaque coin de rue.
Arte.
Les professionnels du bâtiment vantent la Palestine de demain à grand renfort de clips vidéo.
22 septembre 2011.
En banlieue de Ramallah, Mounir Treish construit 2000 logements, déjà presque tous vendus. L'économie palestinienne se porte bien, affirme-t-il. Il ne manque plus que la reconnaissance d'une Palestine indépendante par les Nations Unies.
Quand le monde entier reconnaîtra le droit des Palestiniens, ça nous donnera un nouvel élan extraordinaire. Les Palestiniens qui vivent à l'étranger oseront venir investir ici, ce qui permettra de relayer l'essor économique actuel.
Même si l'industrie immobilière connaît un boom à Ramallah, à ce jour, les Palestiniens n'ont aucune frontière souveraine, aucun port ni aéroport. Et un État de Palestine reconnu par l'ONU ne signifie pas pour autant un État libre.
On était surpris en arrivant à Ramallah de voir une ville qui ressemble à Dubaï. Hein, c'est-à-dire clinquante avec des tours, avec des constructions, avec des terrasses, etc. Qu'est-ce que ça vous fait quand vous, ici, vous êtes dans votre camp de réfugiés qui est là depuis 1948 et vous êtes serrés les uns contre les autres, même si c'est très chaleureux d'ailleurs au demeurant. Hein.
احنا فاهمين القصة الموضوع كالتالي ان امريكا بتعلن العالم انها تم التبرع على السلطة او لفلسطين بملايين الدولارات او اوروبيين حس الناس بتوقع ان هاي الملايين وهي المتبرع فيها امريكا
واوروبا tout cet argent que les pays donateurs donnent
كذا لا هاي معظم هاي الاموال متجهه فقط
aux palestiniens c'est pas de l'argent qui va aux gens pauvres
à تحسين الشوارع
à faire des aides sociales. C'est de l'argent qui va essentiellement pour faire des infrastructures dans les zones riches de la Cisjordanie. Cette politique crée deux classes sociales. Une classe extrêmement huppée et riche qui habite dans les villes et une classe extrêmement pauvre qui habite dans les camps de réfugiés. Nous sommes, en tant que réfugiés, opposés complètement à cette politique parce qu'elle nous laisse en marge du progrès et du développement.
Est-ce qu'on vous promet que ça, ce sera bon pour vous un jour ou l'autre, que ça va rapporter des emplois, qu'il va y avoir des retombées?
Jusqu'à maintenant, même les promesses, il n'y en a pas de promesses. Moi, en tant que jeune de 32 ans, j'ai même pas entendu aucune promesse jusqu'à maintenant qui m'adresse à moi, qui adresse mes conditions de vie.
Dis-moi, qu'est-ce que tu fais? Tu es chauffeur de taxi?
Conducteur de bétonneuse.
Tu travailles sur une bétonneuse. Combien tu gagnes?
Je gagne 100 shekels par jour.
20 euros par jour, oui.
Si je vais avec ma petite copine dans un restaurant de fast-food, je mettrai 150 shekels, alors que je gagne 100 shekels.
C'est ça.
يعني سعر القهوة الكافية في رام الله 20 شيكل القهوة.
À Ramallah, la tasse de café c'est 20 shekels.
Donc tu peux te payer 5, 5 cafés. Pour combien d'heures de travail? Combien tu travailles?
Je travaille pas moins de 12 heures par jour. Et en fait, il n'y a pas de limite de travail, parce que tant qu'il y a du travail, il faut le faire.
C'est délirant, hein, c'est délirant, cette inégalité.
تعودنا طبيعتنا هيك صارت نظام البشرية احنا كإنسان تعودنا نظام الشغل لما تطلع الفجر لحد ما تعتمد المدينة قبل ما نروح على البيت.
On se fait comme ça, on se fait. Aujourd'hui, nous sommes habitués à ces conditions de travail. On travaille dès le matin, dès la prière du matin jusqu'à la prière du soir sans arrêter.
Et puis à ce moment-là, il y a la prière du soir qui commence.
Qui commence. On continue dans le camp d'Alamari, à la périphérie de Ramallah. Périphérie à peine, puisque on est dans la ville elle-même, mais on est de l'autre côté du décor, de l'autre côté de la vitrine étincelante de Ramallah, avec les réfugiés qui eux aussi espèrent que le pays sera reconnu aux Nations Unies, mais qui aussi désespèrent de ce fossé qui est en train de se creuser entre une élite globalisée palestinienne et eux qui continuent de croupir dans leur camp, dans les différences. Là, après l'appel à la prière, la nuit descend doucement sur le quartier. Et ce qu'on nous raconte ici, c'est qu'il y a vraiment une lutte de classe terrible entre ce quartier ici des réfugiés de 48 d'Almari avec les gens du centre de Ramallah. Ce que tu dis, c'est que ici la bourgeoisie de Ramallah ne donnera jamais sa fille à des garçons d'ici. Hein, il y a une lutte de classe très très violente.
Mais c'est parce que aussi on considère que vivre dans ces conditions c'est extrêmement honteux et beaucoup de gens n'accepteront pas de vivre ces conditions.
Il y a beaucoup d'entre vous qui se sont battus au temps de l'intifada, de la deuxième comme de la première intifada, je suppose.
Oui, beaucoup.
Et qu'est-ce qu'ils sont devenus, ceux-là? Qu'est-ce que ces combattants, tous ceux qui se sont battus, pensent quand ils voient cette ville clinquante, avec toutes ses facilités? Est-ce qu'ils sont fiers de ça, en disant, ben voilà, nous les Palestiniens, on est aussi capables d'avoir une ville jolie et magnifique, ou bien est-ce qu'ils trouvent que c'est une injustice?
C'est bien connu. Ceux qui font les révolutions et le combat, c'est les plus courageux. Et ceux qui recueillent les fruits, c'est les gens qui se planquent en général. Donc c'est une règle générale, ici comme ailleurs.
C'est amer ce que tu dis.
Nous ne nous considérons pas comme des gens qui ont accompli quelque chose. Nous sommes conscients que nous vivons encore sous occupation. L'Égypte israélienne rentre ici quotidiennement, ils récupèrent des gens, ils enchaînent des gens. Et donc nous sommes encore sous occupation. Donc il n'est pas le temps, nous ne considérons pas qu'il est temps encore de cueillir les fruits de notre combat.
Notre ami là, qui est là, qui a le bras dans le plâtre.
احنا في عندنا ليله القدر في شهر رمضان المبارك تجي ليله 27 26 على 27.
Pendant le mois de Ramadan, je voulais aller prier à la mosquée Al-Aqsa à Jérusalem pour la Laylat al-Qadr, la nuit du Qadr. C'est la dernière nuit du mois de Ramadan. C'est une nuit sacrée où tout musulman doit aller prier. Et nous, on voulait aller à Jérusalem, à la mosquée Al-Aqsa. Et en tant que résident de la Cisjordanie, on n'a pas le droit d'aller à Jérusalem.
Même si c'est à 15 km d'ici.
Donc j'ai essayé de monter sur le mur de séparation entre Ramallah et Jérusalem pour aller prier à Jérusalem. Et l'armée israélienne est venue et ils nous sont aperçus. Et j'étais obligé de sauter très vite du haut de 15 mètres. Et je me suis cassé le bras.
Tu es tombé de quel côté ? Palestinien ou côté israélien, t'es tombé?
Le كل بيسأل نفس السؤال لكن الواحد عند لحظة الوقوع بدي يدبحه عند جهة الضفة مش عند جهة إسرائيل.
Tout le monde me pose la même question de quel côté je suis tombé et en fait quand j'ai vu que l'armée israélienne venait de l'autre côté, je me suis jeté du côté, bien sûr, palestinien. Parce que si je suis tombé de l'autre côté israélien, l'armée va me casser l'autre bras, pas seulement celui qui est cassé.
Pour ceux qu'on chasse de leur maison, j'écris ce texte avec le cœur et la raison. Je n'y peux rien si la vérité vous est vraie. Mais je suis ni aveugle, ni sourd, ni muet. Se taire, c'est parfois cautionner la violence et le non-droit. Je ne serais pas complice du silence anticolonialiste. Ce n'est pas être antisémite, je suis qu'un homme avec le sens de la justice. Je n'ai que la parole pour trahir, pour ceux qu'on traite en étranger dans leur propre pays. Pour ceux qui ont été spoliés, volés, qui ont vu leurs droits les plus fondamentaux violés. L'héritage tragique de décisions injustes prises sous mandat britannique. Depuis la déclaration Balfour, on s'enfonce pour comprendre le présent, comprendre où l'histoire commence. Priver un peuple de l'autodétermination, partager ses terres sans aucune consultation. Observe le drame de la colonisation. Deux options, la lutte ou la résignation. La Palestine n'était pas une terre sans peuple, destinée à accueillir un peuple sans terre. Il y a bien un occupant et un occupé. Il y a bien un oppresseur et un opprimé. Les colonies se multiplient sous l'œil passif complice des États-Unis. Négociations sans fin pour la création d'un État palestinien. Mais quand viendra l'heure, qu'est-ce qu'il en restera? Qui peut prétendre trouver ça normal? Qui peut prétendre que je devrais rester impartial? Pour rester impartial, quand l'injustice est flagrante, il faut être sourd avec une morale non-voyante. L'histoire témoignera que je me suis levé comme j'ai pu, pendant que les grandes puissances les regardent crever. Tous parlent de droits de l'homme, mais n'empêche pas le massacre. Les sanctions de l'ONU ne sont applicables qu'à l'Irak.
Alors là, on est à Al-Amari. Hein. C'est un camp de réfugiés à côté de Ramallah. 8500 personnes et qui sont là pour certains depuis 48, 49, de génération en génération. Ils sont toujours là et toujours considérés comme des réfugiés. C'est pour ça qu'on est venu ici. Et c'est pour ça qu'on est avec ce garçon,
Ahmad.
Ahmad, qui est couché sur ce lit, dans cette pièce, avec toute la famille qui est autour. Et Ahmad, il est sourd.
Il est né handicapé sourd.
Et pour parler, c'est son frère.
C'est son frère. Mohamed va traduire les paroles de Ahmad.
Voilà, c'est ça. Tu lis sur les lèvres de ton frère. Non. Et donc, voilà le frère qui est couché, qui est très maigre, on peut dire, hein, qui est allongé sous ses couvertures, a fait des gestes pour montrer ses blessures.
كان في واحد مستشهد نادوا عليه وقفوا بتفرج الشباب شردت لما شافت الجيش هو عشان بسمعش اطلاق النار وهذا ضلوا واقف لقي الرصاصة اجت في صدره من هان هاي ها.
Et donc en fait Ahmad avait 19 ans et il allait faire des courses pour sa mère au marché des légumes. Donc au camp de réfugiés et puis il y avait par hasard une manifestation et l'armée israélienne qui était là. Et il y avait des tirs, des balles, mais lui, il ne pouvait pas entendre, parce qu'il est sourd, sourd-muet. Et l'armée israélienne lui a averti apparemment, mais comme il ne pouvait pas entendre, l'armée lui a tiré dessus. Avec une balle, il nous montrait en fait qu'il est entré par...
la poitrine, ressorti par le dos, et lui a pété les vertèbres dans le dos.
Exactement.
Voilà pourquoi il vit entièrement couché sur le dos.
كان معروف عند الإسرائيليين.
À l'époque de la première intifada, c'était bien connu en fait des pratiques de l'armée israélienne. Quand il y avait un blessé, on le retirait, on le tirait, essayant d'avoir un avantage de sa blessure, donc on le torturait. Mais une fois en fait, il était torturé, ils ont découvert qu'il était sourd-muet, et c'est comme ça qu'ils l'ont laissé dans une poubelle en face de Al-Amari.
C'était quelle date?
Donc c'était le 1er juin 1994.
Est-ce qu'il a reçu, est-ce que Ahmad a reçu des indemnités, des soutiens, l'autorité palestinienne? Alors c'est le frère qui explique notre question. Ahmad, qui répond, qui comprend, en lisant sur les lèvres et par les gestes.
En fait, il n'a pas reçu aucune indemnité d'aucune part. Il a un salaire annuel de 1000 shekels.
Il reçoit 1000 shekels par an.
1000 shekels par
d'indemnité.
Ah, de l'autorité palestinienne.
L'autorité palestinienne lui verse 1000 shekels par an.
1000
shekels, ça fait combien?
200 euros.
200 euros par an.
Par an.
Pour avoir été blessé par l'armée israélienne. Mm-hmm. L'armée israélienne a reconnu ses torts ou non?
Là. En fait, l'armée israélienne n'a jamais reconnu ses torts avec Ahmad.
Donc, aujourd'hui, malheureusement, Ahmad est un. C'est toute la famille qui s'occupe de lui, c'est vous tous.
Et le père de Ahmad me montre une prescription médicale faite par la clinique de l'ONUROA, donc l'agence qui s'occupe des réfugiés palestiniens, où c'est marqué en fait la piqûre dont il en a besoin. Apparemment, cette piqûre coûte à peu près 250 shekels, l'équivalent de 30-40 euros. Et le médecin de l'ONUROA a dit il doit dormir à l'hôpital pour soulager son infection et soigner son infection.
Mais l'hôpital l'a refusé.
L'hôpital public palestinien, à Ramallah, a refusé de l'accueillir. Et au lieu d'avoir les piqûres, on lui a donné des antalgiques normales.
Ce qui est un petit peu paradoxal là-dedans, c'est que l'actuelle autorité palestinienne se présente comme la bonne gouvernance et félicitée, encouragée par les agences internationales, par la Banque mondiale, par le Fonds monétaire international, pour la bonne gouvernance. Or, l'autorité palestinienne reçoit aujourd'hui les plus gros volumes de dotations de toute l'histoire de l'aide au développement. Donc, il y a de l'argent qui arrive, mais il y a un problème de répartition, visiblement, de gestion de cet argent. Or, là, on le voit. Si c'est ça la bonne gouvernance, on peut quand même s'inquiéter.
Effectivement, et le père de Ahmad était en train de dire que Ahmad, s'il était fils de cette élite-là, il serait envoyé immédiatement dans les meilleurs hôpitaux au monde. Or que Ahmad, ça fait 17 ans qu'il souffre de ce qui se passe ici, et personne ne lui prête aucune attention.
Est-ce que ça veut dire que la politique actuelle de votre gouvernement est moins solidaire qu'auparavant?
Les gouvernements précédents. كان فساد عام في الشارع حتى الفساد والوسطات والفلتان الأمني اليوم صار الفساد تحت الطاولة صار الفساد في الغرف المغلقة.
Avant jadis, la corruption était généralisée, voyante, on pouvait la voir dans la rue. Aujourd'hui, le gouvernement est aussi corrompu qu'avant, mais tout se passe dans des chambres closes, dans sous la table, personne ne la voit.
انا بترجم لعمد شو امي بتحكي هو حكى كلمه وسخه
ايش حكى
لما قال انه رفرف علم قال بقول ابو مازن والعلم على زبري
donc il traduisait Ahmad
Ahmad qui est couché
qui est couché et son frère
est très mauvais état.
Ahmad nous dit que Abu Mazen et le drapeau palestinien sont dans mon tout.
Oui, pour les uns c'est dans le cœur et les autres c'est dans le cul.
Exactement.
Qu'est-ce que c'est que ces papiers qu'on nous montre?
La famille qu'on voit aujourd'hui, c'est une famille, effectivement, elle vit dans une pauvreté terrible. Mais cette famille avait une autre vie avant. Cette famille avait beaucoup de terres dans Malha, à côté de Jérusalem. Ça, c'est la clé de leur maison.
Ah,
ça,
la clé de leur maison.
De leur propriété, de leur terre, de leur ferme. C'était une immense famille propriétaire.
Qui a tout perdu.
Ces
gens-là avaient beaucoup de terrain, beaucoup de propriétés. C'était des gros fermiers. Aujourd'hui, ils vivent, ils ont tout perdu. Ils vivent dans une pauvreté terrible. Ils vivent sous le seuil de pauvreté.
Qui vit sur leur terre aujourd'hui?
Les Israéliens. C'est Malha à côté de Jérusalem. Il y a le Kenyon Malha, c'est le plus grand centre commercial d'Israël. Elle est probablement sur leur terre.
بملايين الدولارات مشان انه يشتروها لكن المره قالت انا مستعد اموت من الجوع ولا ابيع هاي الاوراق ولا ابيع ارض لليهود.
Les Israéliens jusqu'à maintenant lui envoient des intermédiaires pour acheter ses papiers et donc posséder la terre. Et la mère, elle dit, je meurs de faim et je vendrai pas ma terre aux Israéliens.
Ah, qu'elle vienne voir la maman. Parce que ces papiers qu'on voit là sont des titres de propriété
qui datent de l'Empire ottoman.
C'est un document officiel qui reconnaît votre propriété. Depuis, vous avez été chassé. Vous étiez enfant.
J'étais jeune fille. J'avais 6 mois à l'époque.
6 mois en 1948.
Moi, je suis la fille des tentes. J'ai vécu sous les tentes. Mais c'est mes parents qui m'ont raconté cette histoire. Nous avons vécu les dures conditions sous les tentes.
Et aujourd'hui, régulièrement, des Israéliens viennent vous voir en vous proposant d'acheter vos terres en échange de ces papiers.
Qui vendra son honneur et sa terre? Dans notre terre, on vit de notre terre. Regardez ici cette maison, on dirait c'est une petite boîte de comme des boîtes de sardines en fait. 2 pièces avec 32 personnes qui habitent dans 2 pièces. Cette terre ne nous appartient pas, cette maison appartient à l'UNRWA.
Si vous acceptiez de vendre, vous auriez de l'argent, beaucoup d'argent.
Mais j'aurais...
اعطوني هذول انا هاي امانه في ركبتي اهلي حملوني امانه انا بحملها لاولادي اولادي بحط الامانه يحملوها لاولادهم.
Moi j'aurais perdu mon honneur et j'aurais perdu mes enfants. Moi j'ai reçu ces papiers de mes parents, je la transmets à mes enfants et à mes enfants doivent la transmettre à mes petits-enfants. On n'oubliera pas notre terre. Elle dit que c'est vraiment, c'est pas d'hypocrisie en fait. C'est vraiment ce que je pense. Et maintenant, ce que je voudrais voir le drapeau palestinien à côté des autres drapeaux en face de l'ONU.
أو شعب إسرائيل بده يهفي شعب فلسطين لا كنا عايشين إحنا وشعب يعني جدودنا المالحة واللفتة واليهود نحن يهود وهدول حارة اليهود لليوم في القدس.
Et moi, quand je dis la Palestine, c'est pas une volonté de ma part de rayer les Juifs ou les Israéliens. Avant, nos grands-parents vivaient côte à côte avec les Juifs. Mon village, Malha, était à côté de Lifta, à côté d'un autre village israélien. Tout le monde vivait en paix et en sécurité. Nous voudrons vivre Sawa, ensemble.
سير مساواة يعني قولوا زي ما إسرائيل حرية إحنا كمان بدل ما إحنا عايشين في علب نتفت حرية.
Moi je voudrais Sawa et Moussawa. Je voudrais qu'on vive ensemble et en égalité. Sawa et Moussawa en salam.
Sawa et Moussawa en salam.
Ça veut dire ensemble en égalité et en paix.
Inch'Allah. هذا اللي نتأمله من ربنا.
شكرا.
قالت عم تستناني قلت لها استني عطول محسوبك بعالم تاني مستني دولة بأيلول. قالت عم تستناني قلت لها استني عطول محسوبك بعالم تاني مستني دولة بأيلول. قالت
ما عندي فكرة
ولا
بتسأل بي بكرة.
قالت ما عندها فكرة ولا بتسأل بي بكرة
بس ببصم لك بالعشرات مشروعك شو رح يكون.
قالت عم تستناني قلت لها استني عطول محسوبك بعالم تاني مستني دولة بأيلول.
طب موعدنا شو منه شكلك مش سائل عنه
بظنه لك لازم انه يتأجل بعد ايلول
ضلك اجل
C'était Palestine, mais dans quel état? Un reportage de Daniel Mermet et Guy Vanctil à Ramallah. Traduction Rami Rabaya. Merci à tous les amis du camp de Al-Amari. Merci à Ahmad et sa famille. Merci à Benjamin Barthes. À lire sur le sujet Ramallah Dream, voyage au cœur du mirage palestinien de Benjamin Barthes, apparaître en octobre aux éditions La Découverte. Vous retrouverez toutes ces informations sur le site de France Inter à la rubrique émission là-bas si j'y suis et sur le site la-ba.org. À la technique, Éric Morin et Michel Bézikian. Réalisation Bertrand Chaumeton et Franck Adhérer, assistante Marina Touyez et Grégory Salomonovitch attend vos messages sur le répondeur de là-bas si j'y suis au 01 56 40 37 37.
Hey, le loup, t'en as pas marre de te faire avoir par trois petits cochons? Alors mange trois produits laitiers par jour, tu seras plus fort. Bah oui, par exemple, tu peux prendre un verre de lait le matin, du fromage à midi et un yaourt le soir. Tu vois, c'est facile. Paf, paf, paf. Et trois produits laitiers pour le loup.
Les produits laitiers sont nos amis pour la vie.
Campagne financée avec le concours de l'Union Européenne, de la France et du PNIEL.
Maman, tu fais quoi pour prendre soin de toi?
Chaque semaine, 5 km de course d'orientation.
Et tu devrais faire comme moi.
Ouais, c'est ça. Un jour peut-être. Et sinon?
J'ai souscrit mon contrat santé chez Malakoff Médéric. Parce que c'est pas ma boussole qui va m'indiquer le meilleur hôpital en cas de pépin.
Malakoff Médéric prend soin de vous. En cas de besoin, notre service Compare Hospit vous oriente vers l'hôpital le plus proche et le plus adapté à votre cas. C'est ça, prendre soin de la santé, du bien-être et du bien vieillir de chacun. Malakoff Médéric, présent pour votre avenir.
France Inter, partenaire de l'exposition Cézanne, Matisse, Picasso, l'aventure des Stein. Aux Galeries Nationales du Grand Palais, du 5 octobre au 16 janvier. Dans le Paris de la Belle Époque, la famille Stein côtoie toute l'avant-garde artistique. Matisse, Cézanne, Picasso, Renoir et tant d'autres. Une exposition exceptionnelle pour découvrir les chefs-d'œuvre de cette collection. Retrouvez l'aventure des Stein dans les émissions de France Inter et sur franceinter.fr.
Après le journal, vous retrouverez Frédéric Laudéon. Vous écoutez France Inter, il est 16h. Les informations, Laetitia Gaillet.
Manuel Noriega est libre, mais pas totalement. Un juge français a accordé cet après-midi la libération conditionnelle de l'ancien dictateur du Panama. Mais Manuel Noriega devra rester en prison jusqu'à son extradition vers son pays. Extradition qui est pour l'instant bloquée par un imbroglio judiciaire. Le parquet de Paris a requis 30 000 euros d'amende cet après-midi contre une association proche de l'Opus Dei. Elle est accusée par une de ses anciennes salariées de travail dissimulé et de rétribution contraire à la dignité. Mais le parquet a redit qu'il n'entendait pas faire le procès de l'Opus Dei. Les avocats de la plaignante voulaient, eux, dénoncer la dérive sectaire de l'Opus Dei. Je n'accepte pas que le pouvoir puisse être tenté de faire pression sur la justice. Réaction de François Hollande aujourd'hui. C'était lors d'un déplacement du candidat à la primaire socialiste à Angoulême. Et cela fait référence, bien sûr, à l'affaire qui touche depuis le début de la semaine des proches de Nicolas Sarkozy, à savoir le volet financier de l'affaire Karachi avec ses rétrocommissions qui pourraient avoir financé la campagne d'Edouard Balladur en 95. Dernière révélation en date, les coups de fil de Brice Hortefeux à Thierry Gobert, ancien conseiller de Nicolas Sarkozy. L'ancien ministre de l'Intérieur a reconnu avoir appelé son ami pour lui faire part de rumeurs de presse et lors de sa garde à vue. Le journal Le Monde affirme qu'au contraire, c'était pour le prévenir que sa femme, je cite, « balançait beaucoup dans cette histoire ». L'avocat des familles des victimes, maître Olivier Maurice, demande l'ouverture d'une enquête. Il dénonce une violation du droit pénal et une entrave au bon déroulement du travail du juge d'instruction. Deux salariés bretons victimes de pesticides de l'agroalimentaire ont décidé aujourd'hui de poursuivre leur ancien employeur. Ils sont soutenus par Solidaires et plusieurs associations comme Attac. Laurent Guillou et Stéphane Rouxel ont expliqué comment ils avaient été intoxiqués en 2009 par un produit utilisé pour traiter des céréales infestées par des vermines. Victimes de maux de tête et de ventre, de saignements et de brûlures, ils ont été plusieurs fois arrêtés et ils ont été déclarés inaptes au travail et licenciés par leur entreprise Nutria. La première plainte avait été classée sans suite en 2009 avant qu'une enquête soit ouverte à la fin de l'année dernière. Comment améliorer la sécurité des centres forts des sociétés de transport de fonds ? Claude Guéant, le ministre de l'Intérieur, lance aujourd'hui des études. Décision annoncée à l'issue d'une réunion au ministère avec les professionnels du secteur, mais qui surtout fait suite au braquage mercredi matin d'un centre fort à Orlyville, dans le Val-de-Marne. Un commando armé est reparti avec 5 millions d'euros. Il a tué au passage un convoyeur de fonds. 5 heures sans bus à Amiens aujourd'hui. Le personnel d'Amétis a exercé son droit de retrait après l'agression de deux de leurs collègues ce matin dans une agence commerciale près de la gare d'Amiens. Les malfaiteurs qui ont usé de gaz lacrymogène sont partis avec 12 000 euros. Pas de plan social, mais une réorganisation en profondeur. Le groupe Total a annoncé aujourd'hui la fusion de ses branches raffinage et pétrochimie dans le monde. Total souhaite isoler la branche distribution pour relancer des activités où les bénéfices sont faibles comparés à l'exploration et à la production. Mais la direction assure qu'il n'y aura pas de licenciement. Un comité de groupe est convoqué le 10 octobre prochain pour présenter le projet au syndicat. Total emploie 93 500 personnes dans le monde, dont 35 000 en France. On ne sait pas combien sont concernés par cette réorganisation. Vous écoutez Côté France Inter, il est 16h03.
Les liaisons heureuses, Colombe Schneck.
Cette semaine, en partenariat avec le quotidien Le Monde, une rencontre exceptionnelle avec David Grossman. Il vient de publier « Femmes fuyant l'annonce au seuil ».
Ce qui est impressionnant, c'est de voir effectivement que, si ce n'est à chaque page, en tout cas, c'est un livre qui est plein d'humour.
Et l'écrivain Gilles Rosier pour « D'un pays sans amour » chez Grasset.
Shalom.
Les liaisons heureuses, demain, à partir de 15h. France Inter. La différence.
Et c'est Didier. Bonjour Didier Varros, à vous.
Ça va Laetitia Agaillé. Je vous dois un album de The Do. Il est dans les cartons du 9e étage de Mangin Palace. Et comme on déménage, voilà, c'est une question de jour, voire de semaine. On vous retrouve à 17h.
Oui, ça marche.
C'est parti.
Quand la musique donne... sur France Inter.
Quand la musique donne sur France Inter, c'est désormais notre rendez-vous tous les vendredis aux alentours de 16h05. Et pour se mettre en jambe, comme chaque semaine, c'est l'été indien ou presque, donc un joli mix libre. Voici le premier grand disque de la rentrée, Evolo Love, signé François and the Atlas Mountains. De la pop de chambre magistrale, entre éléments liquides et envolée atmosphérique.
Suis-je un rêve dans lequel tu t'installes? Nous faisons le bal, nous baradons. Soyons les plus beaux,
soyons les plus.
Il fut l'homme qui a réussi à faire pleurer les machines dans les années 90. Le français DJ Cam, exilé volontaire à Los Angeles, revient avec un 7e album qui devrait remettre le trip-hop sur nos platines. Il s'appelle Sidney Vallette, cet ancien étudiant en philosophie débarque avec un premier album insolent et dissipé au titre rageur « Plutôt mourir que crever ».
Aujourd'hui c'est dimanche, ce soir je ne sors pas, je reste tranquillement à la maison, muni un livre. J'essaye de faire le vide dans mon esprit, une boîte de thé minceur, en mangeant des légumes verts, biologiques. Il s'agit de cesser toute activité et aborder ainsi le corps purifié de toutes les merdes qu'on a ingurgitées le vendredi et le samedi soir. J'en ai marre de ce temps divisé en moments d'activité, de repos, vacances, non vacances, travail, non travail. Dimanche, non dimanche. Dimanche devrait être le jour de tous les jours. Tous les jours devrait être, non. Tous les jours, dimanche.
Un autre jeune français installé et reconnu aux États-Unis, Anthony Gonzalez et son groupe M83, revient avec un double album copieux qui oscille entre les pistes de danse et une pop introspective.
Trouvez en détail sur franceinter.fr. Et quand la musique donne...
Rock, musique électro, techno...
Chanson, rap...
La musique d'aujourd'hui, en fait, de la musique moderne.
La musique, elle est juste là, comment... C'est une vibration.
Didier Varro.
Il est parisien, ils sont lavallois. Il a grandi dans le Finistère... Ils font tout pour revenir dans la Mayenne. Ils aiment la chanson et les histoires. Ils aiment le rock et les satires. Ils chantent les femmes à lunettes. Ils adorent venger les petites mains. Ils pourraient bien faire partie des timides anonymes. Ils pourraient bien aller voir du côté de la pudeur acide d'un Dutronc. Ils aiment bien les clans, les miroirs et les trios. Ils aiment bien les gens, les guitares et les défaites napoléoniennes qui leur inspirent un coup de Trafalgar sur le rock français. Il aime endosser des rôles plus grands que lui. Ils aiment s'engager pour mieux se dégager. Il a chanté en première partie de Benabar. Ils écrivent des chansons pour Benabar. Il aime Brassens. Ils aiment Polnareff. Il aime Renaud. Eux non plus. Il s'appelle Renan Luce. Il s'appelle Archimède. Quand la musique donne sur France Inter, en ce 23 septembre, c'est pas RSA, mais RLA. Renan localise Archimède et c'est désormais leur drôle d'endroit pour une rencontre. Bonjour Renan Luce.
Bonjour.
Ça va bien?
Mais très,